Viens, Esprit Saint, nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et nous demandons toujours à Marie, la mère de compassion, de nous aider. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Reprise, voilà. Donc on me faisait signaler, ne pas entrer dans la violence de l'autre, hein, quand nous pouvons être agressés à un moment. Oui, c'est vrai. Ne pas céder à la violence, ne pas répondre à la violence. Mais ça ne veut pas dire ne pas souffrir. Il ne faut pas croire qu'on va s'abstraire d'une manière stoïque au-dessus de tout ça et qu'on n'est pas touché. Pas du tout, c'est exactement le contraire de la passion. C'est se laisser toucher, enregistrer, j'allais dire, et ne pas répondre. Est-ce que c'est possible? Oui, pour Jésus, parce qu'il y a le Père, parce qu'il y a Marie. On ne peut pas le faire seul. Si nous sommes en communion d'amour, c'est possible. Si nous ne le sommes pas, c'est l'enfer. Et c'est pas possible. Donc ça nous demande de demeurer en communion d'amour. C'est pour ça que Dieu nous a créés hommes et femmes. On n'est pas créé comme un être solitaire. Non, nous sommes solidaires, les uns ouverts aux autres. Et c'est la communion d'amour qui est autour de nous qui va nous permettre de faire le matelas qui va amortir le choc. Alors bien sûr, c'est le Père, c'est bien évident pour Jésus. C'est Marie aussi, l'Immaculée. Et pour nous, ce sont ces relations d'amour dans lesquelles nous sommes qui nous permettent de tenir le choc. Quand vous prenez un grand coup de poing dans la figure, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous reçoit. Et c'est prendre à Jésus témoin. Alors, comme Jésus est devant nous et qu'il est le plus touché, c'est possible. Il sait ce que c'est. Et il ne faut pas se tromper parce que, vous savez, en christianisme, la difficulté, c'est qu'on est toujours sur des cimes. Alors, il y a le danger de tomber ou d'un côté ou de l'autre. Or, il faut toujours se trouver en équilibre. Ne pas répondre à la violence, ça demande d'avoir du coffre. Et avoir du coffre, un boxeur, premier coup de poing, paf, il va s'évanouir. Non, il va tenir bon, comme on dit, parce qu'il a du coffre. Or, notre coffre, c'est notre amour, et c'est la communauté qui nous entoure. Ce sont les amis que Dieu nous donne. Donc ça, c'était le premier point, quelqu'un qui me posait cette question. Alors, quelqu'un me disait, mais il n'est pas là. Puis la troisième question n'est pas là non plus. Ça ne fait rien, on répond quand même. Parce que chaque fois qu'il y a une question, ce n'est pas seulement pour la personne qui pose la question, c'est pour les autres. J'ai moins compris, me disait quelqu'un, la deuxième partie. Alors, c'est vrai que la deuxième partie était plus difficile. Alors quand on navigue là-dedans habituellement, ça va seul, on avance. Mais attends, Hesed, Ramin, attends, comment il cause lui? Ben, c'est de l'hébreu. C'est pas du grec, c'est de l'hébreu. Hein? Mais ce sont des mots qu'il faut quand même avoir repérés une fois ou l'autre, parce que c'est classique. Hein? Alors, en fait, l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, vont chacun émettre des vestiges de ce qu'est Dieu. Hein, c'est un petit chat qui passe sur la neige, vous savez, c'est un petit chat, vous le voyez à ses pattes. Si c'est une biche, ce sera autre chose, ce sera d'autres pattes. Ce lapin, ce sera autre chose, ce sera des pattes de lapin. Eh bien, il y a une marque propre à la femme qui redit l'amour de Dieu, comme il y a une marque propre à l'homme qui redit l'amour de Dieu. Et Dieu est bien au-delà, parce que Dieu est Dieu. Alors, je reprends rapidement. Donc, Hesed, c'est cet amour qu'on pourrait qualifier de masculin, amour fidèle, amour solide. Vous voyez, cet amour qui est là, qui tient. Vous voyez, c'est le bastion imprenable. Alors, il y a un côté de force, c'est vrai, dans le côté de Hesed, un côté d'engagement. Vous voyez, je m'engage. Alors, quand il s'agit de Dieu, hein, dans ces contrats d'alliance, où on fait alliance l'un avec l'autre, normalement, le mode est un mode païen sur lequel même la Bible elle-même s'inscrit. Hein, parce qu'on ne part jamais de rien, on part toujours de ce qui est avant. Alors l'alliance, ce sont deux peuples, par exemple, qui font alliance ensemble. Hein, et il y a le symbole, on casse un bâton, chacun part avec le bout du bâton. Mais on sait que quand on rassemble les deux bâtons, il n'y a qu'un bâton. Alors, quand Dieu fait alliance avec nous de cette alliance forte, nous, on lâche. Parce que tout tombe par terre. Pour les peuples, oui. Puis ils rentrent en guerre. Pas pour Dieu. Cette alliance forte, Dieu la prendra pour deux. Oui, c'est très, très important, ça, pour nous. Doublé d'une vérité, un autre mot très important dans la Bible, hein, Hemet, c'est la fidélité et la vérité. Alors, cet amour, il est en même temps vrai. Et c'est parce qu'il est solide qu'il est vrai. Rahamim, alors ça c'est un terme très important. Alors il manifeste la femme dans ses entrailles. Et la femme, elle porte la vie. Et elle est liée à la vie qu'elle porte. Bon, vous savez mieux que moi je ne veux pas connaître. Mais vous connaissez mieux. Or, il y a quelque chose de très fondamental qui exprime la femme dans sa maternité, dans sa conception. Qui est un amour d'entrailles. Une femme laisserait-elle son petit enfant, dit Dieu. C'est impossible. Eh bien, même s'il y en avait une, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, vous voyez, ces deux dimensions de l'amour, masculin, féminin, on peut exprimer ainsi l'amour de Dieu, sans faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de réduire tout à nos pauvres petites conceptions humaines. Que Dieu nous les passe, et heureusement. Et c'est un amour entièrement gratuit. Une maman, normalement, est toute dévouée à son enfant. Elle lui donne la vie. Elle se sent responsable de lui. Donc c'est une autre manière de dire cet amour de Dieu. Et puis Hanan, eh bien c'est cet amour au-delà des deux qui reprend tout. Et qui manifeste alors c'est une nouvelle manière encore, c'est la grâce. Quand on dit que Dieu fait grâce, Dieu donne sa grâce, ben il donne cet amour en surabondance tout le temps. Et il n'est que manifestation d'amour. Bon, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu plus. Oui. Ah, alors c'est pas très... Hein. Alors, Hesed, c'est H-E-S-E-D, mais en traduction française, de lettres grecques. Hein. Donc, H-E-S-D-E-D. Rahamim, alors c'est pareil, il y a des questions d'accent, mais qu'on ne marque pas. R-A-H-A-M-I-M. Hein? Et puis Hanan, H-A-N-A-N. Mais en fait, à la limite, c'est des mots qui disent, hein, c'est comme Amen. Hein? C'est un mot également qui veut dire oui, mais un oui où on consent à la réalité, mais ça n'a jamais été traduit. Alléluia, qu'on ne chante pas en carême, mais c'est ça, Dieu vainqueur. Hein? Et vainqueur de l'amour, on le sent à Pâques. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième question. La troisième. La question qui m'était posée ce matin, c'était, et quand on dit non? Très bien, Dieu m'aime, il veut me montrer son amour, etc. Mais moi, je dis non. Ah, c'est la question qui m'était posée. Alors, effectivement, avec cette communauté très particulière qui se vit à la croix, Jésus, le bon larron, comme on l'appelle, l'autre, Marie, Jean, ça fait une communauté d'un type très particulier. Eh bien, c'est une communauté. Alors, je vous lis simplement cette réflexion que vous retrouvez sur le site 55, au cœur de la douleur, une brèche. Le pauvre qui guérit. Qu'est-ce qui se passe dans le premier crucifié? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du deuxième crucifié? Et vous savez, la mère de Zébédée, on va revenir à ce texte. La mère de Zébédée vient trouver Jésus et lui dit, « Mes fils, un à ta droite, un à ta gauche dans ton royaume. » Eh bien, nous y sommes. Il y en a un à droite et un à gauche sur ce trône particulier qui est la croix. Alors, nous pouvons nous demander quel drame se vit au cœur du premier bandit crucifié avec Jésus et qui le harcèle de cette manière. « Sauve-toi toi-même et puis nous avec !» On voit bien, on est en pleine guerre, là. On nous a eus. Mais toi, on dit que t'es fort. Mais sauve-toi et sauve-nous avec. Puis on va tous leur casser la figure. Et la dynamique de la violence. Et ça, vous l'entendez dans la Bible. Hein. Sauve-toi toi-même et nous avec. Puis on croira en toi cette fois-là. Eh bien, Jésus ne répond pas. Parce qu'on ne se sauve pas tout seul. Voilà ce qui est derrière. On ne peut pas se sauver tout seul. Curieusement, le même ricanement est repris par la foule. Et c'est l'expression d'une humanité qui vit la perte. Perte de la liberté. Avant la domination romaine, nous étions libres. Mais on est en domination romaine, il ne faut pas l'oublier. Avant la crucifixion ou l'arrêt, on pouvait vivre dans la vengeance. Le bandit, il vivait dans la vengeance. Jésus-Christ. Il ne peut plus, il est pris. On pouvait vivre dans le ressentiment. Vous n'avez pas vu tout le mal qu'on nous a fait. Il est pris, il est cloué sur la croix. Alors, vivre de cette perte, de ce manque, est une misérable manière d'exister. On vous a tout pris. Hein? On vous a tout pris. Jésus, lui, donnera tout. Et la dernière chose, entre guillemets, qu'il donne, c'est sa mère. Il a tout donné, il a tout perdu, il ne lui reste plus rien que d'être amour. Il a un amour parfait. En tous les cas, là, nous ne sommes pas là. Alors, vivre de cette perte, de ce manque, est une misérable manière d'exister. Au calvaire, le rassemblement se fait autour de cet enfermement sur soi. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même et nous croirons en lui. Cet enfermement a pour principe qu'on pourrait se sauver par soi-même. Jésus manifeste qu'on n'est pas sauvé par soi-même. Et c'est très important. Vous savez que les vocations d'ermite, c'est ce pourquoi l'Église est le plus vigilant. Quand quelqu'un vous part dans la montagne et vous dit « Moi, je vais vivre en ermite tout seul », ou c'est un fou, ou c'est un malade, ou c'est une véritable vocation. Mais l'Église prend la loupe pour les regarder. Et ça, c'est évident. Donc Jésus manifeste qu'on n'est pas sauvé par soi-même. Il révèle qu'on est sauvé par un autre. Il souffre de l'enfermement de l'humanité sur elle-même. Alors on passe déjà à une parole qui est plus après. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est avec l'humanité rachetée par sa croix que Jésus se présente au Père, dans l'Esprit Saint. Il reçoit l'aide nécessaire pour nous sauver encore, par lui, le crucifié et glorifié. L'Esprit Saint nous est donné et le Père est glorifié. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ses bras ouverts, son cœur ouvert, offrent le pardon qui fera renaître. Jésus peut dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le don de Dieu, Jésus venu dans la chair, et l'inadmissible souffrance se vivre simultanément. Les deux dimensions qu'on mettait en lumière ce matin. Jésus, vrai Dieu, au-delà de tout, le bonheur parfait, qui est descendu dans la nature humaine, la souffrance la plus abominable qui soit. Donc, Jésus, dans la chair et l'inadmissible souffrance, se vit simultanément au calvaire, d'une façon surprenante, dans sa personne. Il y a désormais une issue à cet enfermement sur soi. Au sein de cette douleur, une brèche. Quelqu'un qui n'avait pas de nom, on l'appelait le bon larron, entendu ce cri d'angoisse et de détresse. Et il est entré dans cette souffrance absurde. C'est là qu'il rencontre Jésus. Ou bien accompagner le pauvre. Et j'ai encore le témoignage d'une infirmière qui me disait dans le stage qu'elle faisait, comment c'est difficile quand il y a les soignants et les soignés, et une barrière entre eux. J'avais l'habitude d'être avec. Là, on n'est pas avec, on est pour, on n'est pas avec. Vous voyez la différence, c'est très différent. Et quelqu'un qui est malade le sent tout de suite. Il aura envie qu'on vienne vous tenir la main, qu'on fasse une petite conversation, qu'on puisse dire ce que l'on vit. Ben, l'autre, il faut qu'il se dépêche, il lave votre lit, il faut qu'il fasse une piqûre, puis les autres attendent. Je vais vous sonner sur la... parce que vous avez mal, puis vous, trois fois, vous l'écoutez, ça suffit maintenant. On va vous enlever votre sonnette. C'est pas très simple. Hein? Ouais. Donc, il est entré dans cette souffrance absurde. Or, il nous faut rentrer là pour trouver la liberté. C'est le mystère. Hein? C'est là qu'il rencontre Jésus, qui lui offre dans ce lieu même une liberté nouvelle. Rencontrer quelqu'un qui vous aime dans une situation de détresse, c'est salutaire. On a tous plus ou moins fait l'expérience. Vous êtes vraiment dans un enfermement total, bloqué, et vous rencontrez quelqu'un qui vous aime, ça ouvre la porte à votre solitude. C'est là donc qu'il rencontre Jésus, qui lui offre dans ce lieu même une liberté nouvelle. Le bon larron a su la saisir, retrouvant un être nouveau. Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il appelle Jésus par son nom, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Lui que la souffrance intolérable avait refermé sur lui-même. La souffrance, pour retourner sur soi, il n'y a pas mieux. C'est fou comme la souffrance peut vous boucler sur vous-même. Eh bien, il a reçu la possibilité de se tourner vers l'autre. « Lui n'a rien fait de mal », dit-il à l'autre larron qui est en train d'insulter Jésus. « Nous, dit-il, c'est normal, après tout ce qu'on a fait. » Est-ce qu'il était de la même bande? J'en sais rien. Mais nous, après tout ce qu'on a fait, c'est normal qu'on soit là. Mais pas lui, dit-il. Alors qu'il souffrait comme lui, la crucifixion. Alors s'est opérée une transformation. Nous pouvons considérer la mystérieuse communauté de souffrance du Golgotha. Après le départ des accusateurs de Jésus, il reste une communauté de compassion. Les Romains, les grands prêtres, le peuple, tout le monde s'est acharné jusqu'à ce qu'il soit sur la croix. Et quand il est là-haut, tous, les uns après les autres, ils disparaissent. C'est très mystérieux, hein? Et puis on a cet orage, hein, on a ces ténèbres sur toute la terre, et on a cette, les montagnes se fondent, le temple se fond. Là, il ne reste plus personne. Et le centurion s'en va en disant, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien, il reste une communauté de souffrance. Après le départ des accusateurs de Jésus, il reste une communauté de compassion. Contemplons Jésus en croix, son accueil dans l'Esprit Saint de la volonté du Père. Par son unique, le Père sauve l'humanité. Nous regardons Marie, la mère de compassion au pied de la croix. Son ouverture au drame impensable de la crucifixion de son Fils la situe dans un au-delà de la foi surprenant. La présence des saintes femmes et de Jean l'apôtre donne un témoignage ultime qui doit interroger le bon larron. Il pouvait accepter tout ce qu'il avait perdu et ainsi offrir sa pauvre vie à Jésus. Mystère d'une communauté de compassion. Et progressivement, grâce aux pauvres, nous pouvons accueillir notre propre pauvreté, l'accepter et rebondir en action de grâce. Dans l'acceptation de Marie, il pouvait accueillir tout ce qu'il avait perdu. Il découvrait en Jésus de quoi vivre encore. « Souviens-toi de moi ». C'est cette nouvelle communauté, souffrant avec lui, qui lui permettait alors de refaire surface et de retrouver en lui un désir de vivre quand même. La parole de Jésus vient le confirmer. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il peut alors souffrir avec Jésus. Cette souffrance n'a pas le dernier mot, ni même sa mort prochaine. Là où est Jésus, là il sera dans la vie. « Voici ton fils, dira Jésus à Marie en parlant de Jean. Ce « voici ton fils » est reçu par le bon larron, si proche de la mort. L'expérience montre que la personne humaine a la conscience du déroulement de sa vie, le lien à la mère. Notre origine est toujours en rapport à notre mère. Cette femme, notre maman, a été pour chacun de nous le milieu qui nous a portés dans ce monde. En portant Jésus, Marie a porté tous ceux que Jésus sauve dans son mystère, c'est-à-dire toute l'humanité. L'acceptation de Marie à la croix a été nécessaire au bon larron, quand Jésus était déjà mort. Mystère de Jésus mort et de Marie qui demeure avec Jean, de cette continuation de la vie, au-delà de cet événement de la mort. D'atroces souffrances l'attendaient encore. Marie, la mère de Jésus, était là. Jean, le prêtre, était devenu son frère. Il souffrait avec lui. Il n'était plus seul. Une communauté nouvelle avait pris naissance au pied de la croix. Une autre vie s'énonçait avec et pour tous les souffrants du monde. Marie, la femme des douleurs, est là à jamais, cachée dans le creux du rocher, c'est-à-dire la blessure de Jésus. La blessure de Dieu devant la misère de l'humanité. Si nous croyons aux paroles de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi », nous croyons au chemin parcouru par cet homme. Ne nous faut-il pas revenir à un chemin d'espérance pour le premier larron? Il y a l'autre qui insulte. Il y a le bon larron qui lui a trouvé une issue. Et l'autre. Pour ce premier condamné avec Jésus, l'insupportable souffrance se réveille. Sauve-toi toi-même et nous avec. C'est chacun pour soi, dans sa solitude et dans son enfermement. Si l'autre ne se sauve pas, et moi avec, c'est qu'il n'a pas entendu mon appel. C'est qu'il ne sait pas ce que je vis et qu'il ne peut pas me rejoindre. Et c'est terrible quand vous vous trouvez avec quelqu'un qui ne peut pas vous rejoindre. Vous ne me comprenez pas? Vous ne m'entendez pas, et l'autre n'est plus là. Et pour peu qu'il ait autre chose à faire, il est parti. Et vous vous retrouvez avec votre détresse. D'ailleurs, pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Il ne le peut pas. Et là, c'est le désespoir. La déception est totale, l'enfermement est infernal. Si encore il savait ce que je souffre, il ne sait donc pas ce que je souffre, puisqu'il va me sauver. Mais non, l'horizon est bouché. Alors retentit le cri de Jésus, manquant de souffle. Il ne peut plus beaucoup parler, Jésus. Dans le film de Gibson, que moi j'aime beaucoup en tous les cas, vous voyez comment de plus en plus, il manque de vie, il manque de souffle. Et chaque fois qu'il parle, c'est difficile, il est pendu au bois, mais il est Dieu tout de même. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole de Jésus, je pense qu'elle rejoint le premier larron. Nous ne savons pas l'effet de cette parole de Jésus sur cet homme. La miséricorde exercée sur l'autre larron, l'ouverture de Jésus à son Dieu, n'a-t-elle pas provoqué l'ouverture de cet homme à la souffrance de Jésus qui, cette fois, le rejoint? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est abandonné, il est seul, mais il a en face de lui quelqu'un qui dit sa souffrance. Car Jésus crie sa détresse, qui a la détresse du monde. dans cette communion d'amour la plus forte qui soit, le Père et moi, nous sommes un, s'exprime la distance la plus cruciale qui lui est donnée à vivre. C'est le même Esprit Saint qui fait dire à Jésus, le Père et moi, nous sommes un, c'est le même Esprit Saint qui s'exprime quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À l'intimité la plus forte correspond la différenciation la plus grande. Autre, autre. Hein, les psychologues aiment parler de fusion qui serait une confusion. Hein, quand l'enfant fusionne avec sa mère ou avec son père et on ne sait plus lequel des deux est en train de vivre. Eh bien, dans le mystère de Dieu, la fusion d'amour la plus grande, le Père et moi, nous sommes un, eh bien, et là, son balancier qui va, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le mystère à l'intérieur de duquel l'humanité se retrouve et retrouve un espace de liberté. C'est parce que Jésus est descendu jusque-là, parce qu'il s'est désapproprié de lui-même jusqu'à ce point, qu'il peut encore ouvrir un espace de liberté intérieure au cœur de cet homme. Étant descendu encore plus bas, il peut le rejoindre et le relever. Ainsi, cette personne, ce larron, a-t-il pu penser que Jésus savait sa souffrance, son angoisse et sa solitude absolue, et que de l'intérieur même de cette situation, il l'avait rejointe ? Mais ça, c'est un mystère. Dans la Bible, on a souvent des histoires comme le fils aîné, le fils prodigue. Le fils prodigue arrive, le père l'accueille avec tout son amour, et le fils aîné a des comptes à rendre avec ça. Ah, dis, c'est comme ça que tu fais. Qu'est-ce qui se passe après ? On n'en sait rien. Voilà. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand on dit non ? Eh bien, quand on dit non, je crois que Dieu peut encore nous rejoindre. Et je crois que sa liberté de l'ami le plus intime peut régénérer, réveiller notre liberté. Ce sera toujours notre liberté pour que nous puissions encore dire oui. On a quelquefois des témoignages comme ça, de gens qui étaient bloqués, fermés. Et puis vous arrivez à les rejoindre et progressivement ça se dénoue, mystérieusement. C'est comme si un surcroît de liberté, parce qu'un surcroît d'amour c'est un surcroît de liberté, on aime dans la liberté, c'est bien évident, eh bien pouvait comme réenclencher la liberté de l'autre et ouvrir un espace à l'autre. Voilà, donc j'ai fini pour la troisième question. Alors nous sommes toujours... Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsqu'ils virent sur le lieu du crâne, là ils le crucifièrent, lui et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a ces petits livrets du cardinal Danels qui reprend les sept paroles de Jésus en croix. Et voilà ce qu'il dit dans cette épaisseur humaine d'abord. La douleur me crispe, mon cœur se ferme et se cuirasse. Je tourne mes regards au-dedans, non plus vers l'extérieur. On m'a fait trop de peine. Porte et fenêtre closes, dehors c'est le froid. J'ai besoin des flammes de mon foyer. Je ne suis tout de même pas tenu d'aller réchauffer maintenant les autres. C'est ainsi que nous ressentons la chose, ainsi que nous pensons. Une sorte de droit de ne s'occuper que de soi. Hein? Le mystère de la souffrance qui referme. Et pour Jésus, eh bien, pour Jésus, c'est porte et fenêtre ouverte. La chaleur peut s'échapper pour en réchauffer d'autres, même ceux qui ne le veulent pas. À ce jeu, il semble bien qu'on doive perdre son cœur pour les autres. Et c'est ce qui arrive, car Jésus bouleverse les choses comme à son habitude. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Sur la croix, ce cœur qui normalement devrait se fermer, Jésus l'ouvre tout grand. Loin de revendiquer ses droits, il pardonne. C'est d'ailleurs ce qu'il avait appris auprès du Père avant de devenir un homme. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Sa première parole dans la souffrance est une parole de pardon. Son premier regard est un regard vers les bourreaux, avant même qu'il ne parle à sa mère et aux disciples qu'il aimait. Très fort, hein? Très très fort. On pourrait croire, nous, qu'il va d'abord regarder sa mère, Jean, et dans cette communion, qu'il va regarder. Non. Mystère de Jésus, mystère du salut. Là où il devait y avoir crispation, Jésus laisse se dilater son cœur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pardonner, élargisse le cœur, y fait de la place pour d'autres. Pardonner, guérit, et davantage encore celui qui pardonne. Dans le pardon, je me guéris moi-même avant d'offrir la guérison à l'autre. Pardonner, guérit. Et davantage encore celui qui pardonne que celui auquel le pardon est accordé. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. C'est Matthieu 20. Jésus lui dit: que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Très important pour nous, si nous voulons être tout près de Jésus et nous voulons le suivre. Elle est généreuse, cette femme. Elle a trouvé Jésus étonnant. Elle voudrait que ses fils soient tout près de lui. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit: ma coupe, vous la boirez. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Cette désappropriation totale dans laquelle Jésus entre, jusqu'à tout avoir donné, il a tout donné. Et l'Eucharistie, c'est le dessaisissement de lui-même. C'est mon corps, c'est mon sang. Prenez, buvez, prenez, mangez. Moi, désormais, c'est pour vous. Et Marie est le dernier don qu'il fait. Mystère de l'amour qui ne peut être que désapproprié de lui-même pour être amour. Dans ce sens, Dieu amour est une désappropriation totale. Le Père donne tout au Fils. Alors, pour nous, c'est vrai, c'est des mots. Mais en fait, c'est vrai. Il a tout donné quand il a donné le Fils. Le Fils non seulement reçoit tout pour être Fils, mais donne tout au Père. Et ce don mystérieux de l'amour, c'est l'Esprit-Saint. Notre Dieu est un mystère d'amour, donc c'est le contraire d'une appropriation de quelqu'un qui sèmerait la terreur. Et non, Dieu est amour. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin. Il y a ces places à ceux pour qui le Père les a préparées. Et ça coupe toute jalousie. Moi, je voudrais bien ceci, moi, je voudrais bien cela. Non ! J'accueille ce que mon Père me donne avec amour et je rentre dans l'action de grâce. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Les 10 autres qui avaient entendu cela s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur, et que leurs grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même pour vous. Au contraire, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Hein? Aimez Marie parce qu'elle est effacement à l'image de Jésus qui s'efface. Là où le lieu est le plus surprenant, c'est à la résurrection. Bon, d'accord, Jésus vient au milieu de nous, il joue le jeu de Dieu, mais quand même, quand il est ressuscité, il va tout de même remettre les choses au point. Eh bien, non. C'est le jardinier, avec Marie-Madeleine. Ou bien, c'est le compagnon de route des pèlerins d'Emmaüs. Ou bien, c'est ce mystérieux qui est là au milieu de tous et qui disparaît subitement. Il ne s'impose pas. L'amour ne peut pas s'imposer. Celui qui voudrait acheter l'amour n'obtiendra que du mépris. Et mystère de l'amour. Alors, la révélation de Jésus, de sa passion et des paroles de sa croix nous aide à comprendre. Où est-ce que nous sommes ? Et où est véritablement le christianisme ? C'est le mystère d'un amour qui s'exprime. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quel est le serviteur le plus grand ? Ben, c'est ce pain que nous mangeons pour avoir la vie. C'est le serviteur le plus grand. Et il n'existe plus après qu'on l'ait mangé. Mais quand c'est Jésus, eh bien, il prend corps en nous et nous prenons corps en lui. En effet, dira Jésus dans un autre passage, dans Luc 14, « Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Eh bien, moi, je vous le dis, c'est celui qui redescendit chez lui justifié, hein, ce pauvre qui prie au fond de l'église, là, eh bien c'est celui-là qui part justifié, plutôt que celui qui est devant et qui dit « Regarde-moi comme je sais bien prier. » Donc après s'être tourné vers le Père, la première parole de Jésus en croix est une parole de pardon. Son premier regard est pour ses bourreaux. D'abord, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors continuons. Pardon, j'ai pris du retard, on en verra peut-être deux ou trois, mais on n'ira pas où, mais c'est toujours comme ça. Donc, cette grande parole de miséricorde, Père, pardonne-leur, c'est la grande absolution, dit Adrienne, hein, la compagne de Ours Balthazar, le pardon de plénitude qui est donné non seulement à ceux qui crucifient Jésus, les Juifs et les soldats, mais à tous les pécheurs de tous les temps que nous sommes. La croix de Jésus embrasse tous les temps, toute l'humanité qui est derrière lui et toute l'humanité qui est devant lui jusqu'à ce qu'il revienne. Et les prêtres qu'il a donnés pour qu'il agisse en sa personne vont distiller au cours des ans ce pardon. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et nous avons la certitude absolue que nos péchés ont fondu comme la neige au soleil. Un pardon surabondant de miséricorde et qui excuse, ils ne savent pas. Quand on a du mal avec quelqu'un, on trouvera toujours ses travers et ses mauvais côtés. Quand même, il aurait pu faire mieux. Hein. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'excusez toujours. Très mystérieux. C'est le propre de l'amour. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas celui qu'ils crucifient. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, hein, dit Paul aux Corinthiens. Pierre dit au peuple de Jérusalem, « Je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi. D'ailleurs, que vos pères, repentez-vous et convertissez-vous. » Et même si nous étions totalement responsables de notre péché, si nous savons parfaitement le péché que nous commettons, mais qu'après nous revenons le cœur brisé et que nous demandons le pardon à Dieu, toujours il nous sera pardonner. Père, pardonne-leur. C'est Jésus qui le demande, et qui le demande en notre nom, à notre place. Faut jamais que nous oublions. Ça nous libère. C'est encore de l'orgueil que de croire que mon péché serait si fort et si grand que Dieu ne peut pas le pardonner. Et c'est encore un enfermement sur soi. C'est Jésus lui-même qui vient demander pardon pour moi et en moi. Après ce cri de détresse, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ne pense plus à lui. Il regarde les hommes, le bon larron, Marie et Jean, et demeure intimement uni au Père dans les profondeurs de son être. Peu importe que le Père n'ait pas répondu visiblement au cri du Fils, Jésus sait que son cri a été reçu dans le cœur du Père. Aussi, il dépose avec lui-même toute la misère, la détresse des hommes pécheurs. Jésus est sûr du pardon du Père. Il n'avait même pas besoin de lui demander. D'ailleurs, lui-même a le pouvoir de pardonner les péchés. Il aurait pu le faire lui-même. Et moi, dit-il, je te pardonne. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Et cette fois, c'est lui, au nom de toute l'humanité, qui demande le pardon. Cette parole de miséricorde n'est absolument pas pour fléchir le cœur du Père. Vous voyez, c'est pas... Comment dire ? C'est toujours une surabondance d'amour, il ne faut jamais se tromper. Pour nous, c'est très très important. Le pardon est total, définitif. Il nous aime. Il coule du côté ouvert de Jésus, de son cœur blessé. Et il est déjà donné dès les premiers instants de l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Et il le met en acte. En lui, dit Paul encore aux Éphésiens, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est dans sa personne, dans son corps et son sang, dans son cœur transpercé, que Jésus est notre pardon. Père, pardonne-leur. C'est en lien avec son Père, dans son amour pour le Père, que ce pardon arrive jusqu'à nous. Cette parole, elle renvoie à l'unité du Père et du Fils, à cet amour fondamental, Dieu amour. Et Marie, au pied de la croix, entre dans cette grande absolution. Marie, la mère des pécheurs. Alors, peut-être qu'il nous faut avancer quand même un petit peu. Aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant, « Il en a sauvé d'autres. » Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre le rabroua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité de nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sauve-toi toi-même. C'est la grande tentation. On peut dire que c'est la tentation de l'humanité aujourd'hui plus que jamais. Au moins pour nos régions en tous les cas. Plus d'allusion à Dieu, plus d'allusion au Créateur, plus d'allusion à quelqu'un qui aurait quelque chose à dire à l'humanité. C'est quand même très mystérieux, sauve-toi toi-même. Ouais. C'est la grande tentation. Les chefs se moquaient en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, si celui-ci est le Messie de Dieu. Tout le monde se moque, les soldats se moquent de lui, et lui offrent du vinaigre. Si tu es le choix des Juifs, sauve-toi toi-même. Or, seul le Père sauve Jésus. Et Jésus est le sauveur du monde. C'est bientôt l'heure. Comment terminer en douceur et en grande humilité? Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un surgeon, c'est Isaïe 53, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Et mystère des pauvres dans le monde qui sont le visage de Jésus pour nous aujourd'hui. Il se cache dans son Eucharistie, il se cache dans sa parole, il se cache dans ses pauvres. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Et en fait, c'était nos souffrances qu'il portait. C'est de nos douleurs qu'il était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants, comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était exclu de la terre des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint. Et puis, Isaïe continue. Il continue. Il a été compté parmi les transgresseurs. Ah, oh, je peux encore vous lire un petit passage. 15a de Daniel 5. Un prodige s'est accompli dans le bon larron. Ce n'est pas rien que d'être suspendu à la croix avec l'innocent. Il n'est que deux réactions possibles, le repentir ou le sarcasme. Le bon larron reçoit le plus beau cadeau qu'un pécheur puisse recevoir de Dieu, celui d'un cœur tendre. Le regard sur un innocent rend meilleur ou plus mauvais encore. À l'approche de la mort se manifeste la vraie nature du pécheur. Soit il s'attendrit, soit il s'endurcit. Au seuil de la mort, toutes les passions apparaissent d'ailleurs dans leur relativité, que ce soit l'appétit de richesse, la soif du pouvoir ou le désir de jouissance. En vue de la fin, elles montent comme elles sont vides de sens. La mort rend pâle toute chose. Peut-être est-ce à la grâce du dernier moment. Peut-être voyons-nous alors, en un instant même, tout le passé et nous-mêmes dans la claire lumière de la vérité. Incapables que nous sommes désormais de vivre dans le provisoire, d'écarter la réalité, de la refouler ou de la nier. La porte de l'éternité devant laquelle nous nous tenons est un miroir dans lequel nous sommes maintenant contraints de nous regarder. Nous demeurons dans cet amour fou de Dieu, hein, cet amour fou de Jésus crucifié. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.